France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Miliot, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Loïc Antoine, ainsi que Sacha Mattei, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique, c'est Éric Perruchot-Thiboulet. C'est le deuxième épisode de notre série sur les grands travaux, le sens de la démesure. Nous parlions hier du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, aujourd'hui en Chine, dompter les fleuves et le territoire.
Construire le projet hydroélectrique sur le fleuve Yarlung Tsangpo s'inscrit dans le cadre de la souveraineté de la Chine. Ce projet vise à accélérer le développement des énergies propres, à améliorer la vie des locaux et à répondre de manière proactive au changement climatique.
Le barrage des Trois Gorges est un symbole. Nous n'avons pu compter que sur nous-mêmes pour réaliser ce projet. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir le voir. J'ai gagné en confiance, comme vous tous ici.
Ma maison était là, à côté des bambous, et là-bas, c'était mon atelier. J'ai grainé les épis de blé et je faisais de la farine. Cet endroit me plonge dans une grande tristesse. C'était une bonne idée de construire le barrage, mais il aurait mieux fallu reloger les expropriés. Maintenant, je n'ai pas d'endroit pour vivre, je suis dans la misère, la vie est sans intérêt à présent.
Quand le barrage des Trois Gorges a été construit en Chine dans les années 90 et 2000, plus d'un million et demi de personnes ont été sommées de quitter l'endroit où elles vivaient pour certaines depuis toujours, que ce soit sur le site du barrage lui-même, mais ce sont les moins nombreuses, ou en amont du futur barrage jusqu'à des centaines de kilomètres dans les villes et les villages concernés par la montée des eaux. L'administration chinoise les appelle migrants des réservoirs. Ils sont devenus une classification administrative et même, écrit l'une de nos invitées de ce jour, une abstraction comptable. Mais à l'inverse des migrations forcées sous Mao Tse-tung, le pouvoir chinois essaie aujourd'hui de reloger tout le monde en créant des villes nouvelles, des infrastructures et de nouveaux emplois, principalement dans les services, et tant pis pour les agriculteurs qui ont perdu leurs terres arables et les ouvriers dont les usines aussi auront été détruites. Il a fallu créer des structures administratives spéciales pour organiser tous ces déplacements, tant la Chine a entrepris de grands travaux ces dernières années et en particulier sur ces fleuves. La plupart de ces cours d'eau ont été aménagés et on compte aujourd'hui plus de 70 000 barrages sur tout le territoire, ainsi que des travaux titanesques pour ce que Pékin appelle déjà le projet du siècle, un barrage gigantesque composé de 5 centrales sur le Yarlung Tsangpo au Tibet, qui doit coûter à l'État quelques 155 milliards de dollars. Que représentent ces grands ouvrages dans les politiques de modernisation de la Chine, de transition écologique et de contrôle des territoires? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Florence Padovani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue et géographe, maîtresse de conférences en études chinoises à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire Prodige, et vous êtes spécialiste de ce barrage des Trois Gorges ainsi que de toutes les migrations internes en Chine continentale que ces barrages et ces grands travaux occasionnent. Nous sommes en ligne avec David Julien. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Angers et de Ningbo en Chine. Vous êtes spécialiste de l'aménagement du territoire dans ce pays. Vous avez fait votre thèse en géopolitique sur les barrages hydroélectriques dans la région méridionale du Yunnan. C'est une province frontalière de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. Alors d'abord, pour se représenter, Florence Padovani, ce projet de barrage géant que la Chine a en ce moment sur son fleuve Yarlung Tsangpo au Tibet, est-ce que ce projet mérite tous les superlatifs qu'on lui accole déjà? On entend déjà parler du plus grand barrage du monde, qui va être le plus puissant du monde. Comment faut-il entendre ces expressions-là?
Alors déjà, c'est très habituel en fait de parler avec des superlatifs en Chine. Je dis souvent que la Chine, c'est le pays du superlatif. Quand le barrage des Trois Gorges a été finalement construit, puisqu'il y a toute une longue histoire, mais on reviendra peut-être dessus après, c'était déjà à l'époque, soi-disant, le plus grand barrage au monde. Je dis soi-disant parce qu'en fait, c'était le plus grand à l'époque dans sa catégorie. Il y a plusieurs catégories de barrages. Donc, dans la catégorie des barrages poids, c'était le plus grand. Donc, c'était le projet du siècle. Et effectivement, celui qui est actuellement en cours de réalisation, eh bien, il sera quand même 4 fois plus grand que le barrage des Trois-Gorges. Donc, c'était déjà le plus grand pour les Trois-Gorges. Et là, on a encore plus. Donc, effectivement, c'est très grand. Et je pense que on a raison de s'intéresser à ce cas-là, puisque vous avez toutes les questions que vous avez mentionnées, à savoir les questions écologiques, les questions sociales aussi, mais des questions de géopolitique dont vous parlerez peut-être tout à l'heure.
Et oui, bien sûr, d'autant qu'on parle là d'un barrage qui va se faire au Tibet. On ne va pas trop déflorer tout de suite ce sujet, puisqu'on a la chance de recevoir tout à l'heure Katia Buffetry pour parler spécifiquement du Tibet et des aménagements chinois, et pas seulement des barrages en cours dans cette province. La Chine se donne 10 ans pour construire ce grand barrage sur le fleuve Yarlung Tsangpo. Quels éventuels manques doit-il combler? Est-ce que, comme pour le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie dont on parlait hier, l'objectif principal c'est de fournir en électricité des régions, des habitations, des industries qui n'en ont pas? Ou c'est un barrage qui a d'autres objectifs?
Alors, comme tous les barrages, ils ont plusieurs objectifs. Il n'y en a pas qu'un seul. Effectivement, l'objectif écologique est mis en avant. La Chine a besoin d'énergie. La Chine est déjà un gros producteur de charbon, mais on sait que c'est très polluant. Donc, elle diversifie ses sources d'énergie. Donc, l'hydraulique en est une. C'est soi-disant une énergie verte. Je dis soi-disant parce qu'il y a quand même un impact écologique. C'est pas sans impact, mais disons moins que le charbon. Voilà, c'est une question de comparaison. Donc, la Chine a besoin d'énergie. La Chine a besoin de se donner une image de pays leader en ce qui concerne l'écologie. Et effectivement, les ressources hydrauliques sont nombreuses au Tibet, puisque la plupart des grands fleuves sont bétonnés, avec des barrages. On a construit des barrages sur la plupart des grands fleuves qui prennent leur source au Tibet. Je rappelle que le Tibet, c'est ce qu'on appelle le château d'eau de l'Asie. Donc c'est là où la plupart des grands fleuves prennent leur source. Le Yangtze aussi, d'ailleurs.
Le château d'eau de l'Asie, le Tibet, David Julien, parmi les grands projets de barrages que vous avez étudiés une fois terminés, beaucoup concernent des fleuves qui prennent leur source au Tibet. Est-ce qu'à chaque fois, la Chine poursuit avec ces infrastructures-là, en particulier son vieux projet de contrôle du Tibet qui passe par l'aménagement du territoire depuis 1950, depuis l'invasion du Tibet sur ordre de Mao Tse-tung?
Alors, je préférerais passer la parole à des spécialistes du Tibet sur cette question, puisque moi je suis plutôt un spécialiste du Hunan, donc je m'en excuse.
Mais vous avez aussi étudié des projets de barrage au Tibet, quelques-uns.
Alors, il y a plusieurs Tibets, peut-être que l'intervenante suivante pourra mieux en parler. Il y a plusieurs Tibets, il y a le Tibet administratif, celui des frontières administratives actuelles, il y a le Tibet historique, il y a le Tibet de la langue parlée. Donc, par exemple, dans une des régions, une des vallées que j'ai étudiées, il y a des populations tibétaines qui sont au Yunnan, par exemple, ou dans la province de Sichuan, mais qui ne sont pas dans le Tibet administratif. Donc voilà, il y a un petit peu cette petite différence.
Par exemple, le fleuve Nou.
Sur le contrôle territorial.
Le fleuve Nou, sur lequel vous avez travaillé.
Si on prend cet exemple-là, donc le fleuve Nou, il prend lui aussi sa source, comme le rappelait Florence Padovani, au Tibet, et comme d'autres. Et les projets disons, les grands projets de barrage qui sont, en tout cas pour ceux que j'ai étudiés, ne sont pas des projets individuels, c'est-à-dire c'est pas on fait un projet d'un seul barrage, d'une seule infrastructure, mais plutôt des projets en cascade, en série, où on prévoit, par exemple, le fameux projet de barrage du fleuve Nou. C'était un projet de 13 barrages à l'origine et qui franchit entre guillemets la frontière administrative. Donc une partie se trouve dans la province du Hunan, une partie se trouve au Tibet et d'un point de vue de l'ingénierie, ils sont censés se répondre les uns les autres.
Alors, un barrage, c'est aussi un pouvoir de nuisance ou de défense. Je ne sais pas s'il a été pensé comme tel par Pékin, mais il se trouve que le Yarlung Tsangpo, le fleuve sur lequel va être construit ce gigantesque barrage, ce fleuve achève sa course au-delà des frontières chinoises. Il devient le Brahmapoutre en Inde, puis le fleuve Jamuna au Bangladesh, d'où l'inquiétude des habitants du district de Siang en Inde.
Si la Chine construit un barrage, notre gouvernement devrait lui parler parce qu'on dit qu'elle pourrait l'utiliser contre nous. Si leur barrage casse, le nôtre aussi va casser et toute la zone en aval sera balayée. Et même, ce barrage va aussi devenir une bombe à retardement pour nous, les Indiens.
Alors, est-ce que, David Julien, la Chine pense également ces projets de barrages comme des pouvoirs de nuisance pour ses voisins, puisque la Chine a également construit des barrages sur le fleuve Nou dont vous parliez, donc dans cette province du Yunnan, qui est frontalière de la Birmanie, du Laos, du Vietnam. Est-ce qu'à chaque fois, il y a une idée d'avoir un effet sur les pays en aval ?
Alors, c'est une question qui est toujours compliquée. Si on prend par exemple le Yarlung Tsangpo, j'ai fait un petit peu mes petites recherches sur le sujet. En fait, déjà dans les années, ce sont des projets qui sont réfléchis depuis longtemps en termes de données scientifiques pures et dures. La connaissance géologique, hydrologique, etc. est dans les dossiers de l'État depuis plus de 40 ans. Il y a aussi une culture. Disons, en Chine, l'information est une question très sensible, très cruciale, que ce soit dans les niveaux stratégiques, dans les relations internationales, donc là, pour répondre à votre question, dans les relations transfrontalières, mais aussi au niveau des équipes, entre les équipes, entre la population et l'État, etc. Donc, si on prend le Yarlung Tsangpo, par exemple, cette question du partage des données géologiques, hydrologiques, etc., entre la Chine et l'Inde, par exemple, l'Inde qui est... aimerait en fait avoir plus de données depuis un certain temps sur ce fleuve, pose problème depuis au moins les années 2010, voire plus peut-être. Il y a des accords. C'est une question stratégique et le gouvernement, l'État chinois est un peu réticent à partager trop d'informations. Donc ça vaut le coup pour les relations avec d'autres États, comme avec la population par exemple.
Alors, c'est vrai que l'Inde n'est pas la seule à exiger des données géologiques que la Chine ne fournit pas, même les riverains de ces barrages ou les scientifiques qui aimeraient en savoir plus et évaluer par exemple les risques sismiques auxquels ces grandes infrastructures s'exposent quand ils sont dans des régions soumises à éventuellement des tremblements de terre, n'arrivent pas à avoir ces données. C'était le cas par exemple quand a été érigé le barrage des Trois Gorges. Ce géologue s'inquiétait déjà à l'époque des risques sismiques auxquels s'exposait ce qui est aujourd'hui la plus grosse centrale hydroélectrique au monde, 2 km de long, 200 mètres de hauteur, mais surtout 22 500 mégawatts installés sur le fleuve Yangtze.
Le gouvernement chinois veut cacher quelque chose. Au début, il disait il n'y a pas de déformation, pas de mouvement, c'est n'importe quoi, tout est en ordre. Et maintenant, il dit, oui, il y a des mouvements, il y a des déformations, mais cela n'a pas dépassé la limite. Le problème, c'est que le gouvernement ne dit pas ce qu'est la limite.
Le géologue Wang Weilo sur les risques sismiques auxquels s'expose le barrage des Trois Gorges, Florence Padovani. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes de la construction de ce barrage des Trois Gorges à partir des années 90 et comment, tout au long de ces étapes, la société civile s'est fait entendre à l'époque, ce géologue mais d'autres, avec quels moyens, avec quels risques pour eux et quels résultats?
Alors, si vous le permettez, je vais remonter un petit peu plus dans le temps, puisque la première personne qui a parlé de ce barrage des Trois Gorges, c'était Sun Yat-sen en 1919.
Ah, donc c'est une idée de plus d'un siècle.
Et absolument. Et donc, ensuite, en 92, ça a été voté par l'Assemblée nationale populaire. Et là, on a vraiment commencé les travaux. Mais donc, ça pourrait être tout un roman, l'histoire de ce barrage, donc de Sun Yat-sen. Et puis ensuite, les différents dirigeants de Chine qui ont tenté De le faire construire, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné à cause de guerre civile et à cause de problèmes internes en Chine, mais aussi parce que les Chinois n'avaient pas eux-mêmes la technologie pour fabriquer ce barrage. Et donc, le barrage des Trois Gorges est très important symboliquement pour les dirigeants chinois, parce que c'est la fierté nationale, on a pu faire ce barrage tout seul. Alors, tout seul, pas complètement, puisque par exemple, les turbines, il y a des turbines allemandes, il y a Alstom aussi qui a fourni des turbines, mais les techniciens, l'ingénierie était faite par les Chinois. Donc ils sont très fiers de ça, et c'est en ce sens que c'est un symbole vraiment très très important. Après, j'ai oublié
sur les années 90, pardon, quand les travaux ont commencé dans les années 90, on était déjà dans un contexte de construction très très volontariste de la Chine de plusieurs infrastructures. Pourquoi à cette époque-là en particulier, donc après la période de réforme libérale des années 80?
Parce qu'il y a eu 89 entre les deux. Et donc, absolument. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que avant 89, il y avait un débat, un certain nombre de scientifiques, sciences dures et puis sciences humaines aussi, débattaient de la question du barrage des Trois Gorges. Certains hydrologues en Chine prônait par exemple d'avoir trois petits barrages l'un à la suite de l'autre et qui auraient fourni autant d'électricité qu'un grand, mais qui était moins risqué. Donc il y avait au niveau archéologique aussi, parce que il y a énormément de choses qui ont été englouties et qu'on n'a pas eu le temps de faire des fouilles. Donc il y avait une vraie discussion. Et puis en 89, critiquer le barrage, c'est devenu critiquer le gouvernement. Donc c'était plus possible. Donc la grande, celle que j'appelle la passionnaria chinoise, Dai Xing, elle a même été emprisonnée pour la publication d'un de ses livres. Elle a publié deux ouvrages, justement contre le barrage des Trois Gorges, et avec des études scientifiques, géologiques, archéologiques, etc. Donc voilà, jusqu'en 89, on pouvait critiquer, après plus.
Et d'ailleurs, j'en profite juste pour demander à David Julien si dans le Yunnan également, vous avez observé les mêmes mouvements, c'est-à-dire des barrages qui ont été construits d'abord dans les années 90 ou dans les années 80 par exemple, avec une grande contestation, puis plus tard, plus rien, tout s'est éteint parce que la révolution culturelle est passée par là.
Alors moi, le barrage des Trois Gorges était une question très sensible. Il y a d'autres barrages qui ont été construits dans les années 80 au Yunnan, mais en fait, pour qu'il y ait une contestation et qu'elle devienne visible, il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs, et notamment de partage d'informations entre acteurs de nature différente. Donc, que les habitants entrent en dialogue ou peut-être même dans des coalitions avec des acteurs qui sont mieux médiatisés, directement avec des médias, avec des ONG, avec des universitaires, etc. Donc ce que on peut voir au Yunnan, par exemple, il y a des cas, disons, de barrages qui ont été construits dans les années 80, où justement, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas tout ce jeu, en fait, d'acteurs qui entrent en dialogue les uns avec les autres. Et les résidents qui sont déplacés à cette époque n'ont pas de politique qui puisse leur bénéficier. Mais c'est une situation qui change en fait dans les années 90, où vous avez, comme l'a rappelé Florence Padovani, donc 1989, mais en fait au cours des années 90, vous avez aussi tout le mouvement autour, enfin toutes les réflexions qu'il y a au niveau mondial autour de l'environnement, de la protection de l'environnement, conférence de Rio, etc. Et dans ce cadre, vous avez aussi l'apparition de la société civile chinoise, qui a bien changé aujourd'hui, mais c'est aussi à ce moment-là que vous avez la structuration d'ONG qui vont justement faire ce travail de terrain pour entrer en contact avec des populations et discuter et mettre en résonance les informations à l'échelle nationale, voire internationale.
C'est de moins en moins le cas, même si certaines associations localement essayent toujours notamment de créer du lien entre tous les riverains concernés par ces constructions de barrages et à qui l'on demande de partir. Il se trouve, Florence Padovani, que vous êtes en train de terminer la rédaction d'un ouvrage qui paraîtra en janvier, du barrage des Trois Gorges à Shanghai ou au Guangdong, géographie des déplacements contraints, aux éditions de la Sorbonne, s'agissant des riverains, des habitants des fleuves que le gouvernement veut aménager. Comment ça se passe pour eux désormais, parce qu'il y a eu une longue période, et sous Mao Tse-Tung notamment, où l'on forçait ces riverains à partir. Est-ce que c'est encore le cas, et de quelle manière ?
Alors, en ce qui concerne le barrage des Trois Gorges, je rajouterais juste une petite chose, c'est que en 89-90, le premier ministre, c'est Li Peng. Li Peng, c'est un ingénieur hydraulique, et donc il connaissait bien la question des barrages, et c'est lui qui a vraiment supervisé les travaux, qui a été très présent, et je pense que c'était aussi important que le premier ministre soit un ingénieur en hydraulique, ça a aussi impulsé cette dynamique.
Et l'État reprenait la main d'une certaine façon. Absolument. Après les réformes libérales.
Absolument, tout à fait. Alors en ce qui concerne les déplacements de population, contraintes, forcées, on les appelle aussi les déguerpis, selon certains auteurs. Il y a deux sortes, il y a les ruraux et il y a les citadins. Donc les citadins ont été relogés en ville. On a construit des nouvelles villes le long du fleuve, du fleuve Yangtze. Ils ont été relogés sur place. En ce qui concerne les ruraux, il y avait un problème parce que dans les Trois Gorges, c'est montagneux. Donc, on a des glissements de terrain. Et donc, ça a été accentué par justement cette population qu'on a fait monter sur les hauteurs. Donc, il y a eu une réglementation qui, justement, a imposé, à partir de 99, de reloger ces personnes à l'extérieur de la municipalité de Chongqing. Donc, on les a envoyés dans 11 provinces qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Et là, elles ont été relogées à la campagne avec un petit lopin de terre qui leur a été fourni.
Ça, c'est pour les ruraux, ceux qui savaient travailler la terre. Pour les autres, on a créé des emplois spécialement.
Alors, ils ont en général, leur entreprise déménageait. Donc, à ce moment-là, ils suivaient leur entreprise. S'ils travaillaient dans des mines, parce qu'il y avait des petites mines de charbon le long du fleuve, elles ont été fermées. Et à ce moment-là, il a fallu qu'ils trouvent autre chose, qu'ils trouvent un autre travail. Dans les nouvelles villes, il y a de nouveaux emplois qui ont été créés. Disons que pour les citadins, ceux qui n'avaient pas ce statut de permis de résidence rurale, c'était plus simple. En général, ils ont réussi à s'en sortir assez facilement. Le problème, c'est pour les ruraux et quand ils ont été relogés à des milliers de kilomètres.
Qui se charge d'ailleurs de cette machinerie du déplacement, entre guillemets, le Parti communiste chinois directement ou des fonctionnaires locaux à qui on attribue cette mission-là qui est énorme de reloger des dizaines de milliers de personnes?
Oui. Alors, en fait, on a créé une administration de toutes pièces chargée justement de gérer la question des déplacés. Donc, quand je parle de la question des déplacés, c'est à la fois donc gérer le mouvement, donc ceux qui partent à Shanghai ou au Guangdong, par exemple, ceux que j'ai étudiés, mais c'est aussi gérer, par exemple, la retraite. Donc envoyer les fonds pour la retraite, les personnes qui sont à la campagne, les personnes qui habitaient dans le réservoir, touchent une petite indemnité sur le prix de l'électricité du kilowatt. Donc ça leur est redistribué, donc c'est ces fonctionnaires qui vont s'en charger. Pour tous les problèmes de la vie quotidienne, on a donc des fonctionnaires qui sont chargés de ça. Le vrai problème, c'est que il y a donc une hiérarchie de ces fonctionnaires, et ceux qui sont vraiment en prise avec la réalité, qui travaillent avec les villageois, ce sont ce qu'on appelle des quasi-fonctionnaires. Donc, ils ne sont pas complètement des fonctionnaires, ils sont des paysans, un petit peu dans la hiérarchie, ils sont un petit peu au-dessus, responsables. Et c'est eux qui sont en charge du quotidien de ce déplacement.
Et en général, c'est eux qui ont le moins d'informations sur le projet. David Julien rappelait combien cette information a du mal à circuler et que même quand eux le demandent, ces quasi-fonctionnaires, comme vous dites, ils n'ont pas de réponse à donner à leurs administrés. Est-ce qu'il arrive, David Julien, que ces projets génèrent de véritables confrontations entre l'administration locale et les habitants?
Alors, administration, oui, absolument. Une première question, c'est que administration locale en Chine renvoie à beaucoup d'échelons différents, en fait. Que le local, ça peut commencer au provincial, et ça peut aller tout au bout jusqu'au village. Donc effectivement, comme le rappelait Florence Padovani, les échelons les plus locaux, le village, le bourg, etc., peuvent être en contestation, peuvent être entrés en conflit en fait avec des échelons qui sont juste supérieurs au niveau, par exemple, du district et de la préfecture, ce qui est en dessous de la province. Ils sont souvent... donc moi, j'ai pu rencontrer, par exemple, des maires, mais de village, donc village vraiment au sens qu'on pourrait comprendre en français peut-être, qui savent très bien que le déplacement, que le projet d'être déplacé, etc., est parfaitement impopulaire au sein de la population. On peut dire, j'ai entendu par exemple, 80 à 90% d'opposition à un déplacement au UNAN, mais ils ne possèdent pas l'information pour, disons, la partager avec les résidents.
Ah, on vous a perdu.
Ils savent très
Il y a quelques coupures. On vous a retrouvé. Oui, oui, ils savent très bien. Vous parliez, pardon, de certains fonctionnaires qui n'ont pas d'informations, mais qui savent très bien que.
Ils savent très bien que l'opposition est difficile pour eux directement parce qu'ils sont surveillés en fait par leur hiérarchie directe.
Et par exemple,
c'est-à-dire que leurs mouvements sont contrôlés.
Imaginons un secrétaire de préfecture qui émaille à partir avec des riverains à qui il doit venir expliquer qu'ils doivent partir, qu'il n'a lui-même pas beaucoup d'informations à leur donner, etc. Si des altercations surviennent, est-ce que lui-même ensuite a des comptes à rendre à sa hiérarchie, des problèmes ensuite avec le Parti communiste chinois parce qu'il n'aurait pas réussi à apporter des réponses à tous ceux qui l'ont questionné?
Alors, sous contrôle, bon, peut-être, en tout cas, peut-être de détails supplémentaires de Florence Padovani, je dirais que on pourrait comparer, pour clarifier un peu, on pourrait comparer une préfecture à peu près à une région française. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont assez éloignés, en fait, des réalités, justement, du terrain, si on peut dire, du sol. Le district, on pourrait peut-être le comparer à une sous-préfecture, à un département, quelque chose comme ça. Et le niveau communal, le plus petit, c'est ce dont je vous parlais avec le secrétaire, le maire, en fait, des villages. J'ai oublié votre question.
Et je vous demandais, parce qu'il me semble qu'une fois vous avez suivi une de ces contestations avec un représentant de l'administration locale qui avait eu des problèmes avec les administrés, est-ce que lui-même ensuite a eu des problèmes avec sa hiérarchie ?
Alors je ne sais pas du tout. Je pense que ces personnes-là, donc ceux qui sont vraiment déjà dans le parti et qui sont quasi fonctionnaires, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ceux-là doivent faire particulièrement attention. Ils sont ils sont à l'interface en fait de l'État et de la population. Bon, par contre, vous pouvez avoir des leaders paysans ont une capacité d'organisation, sont connus dans la communauté locale. Mais pour ma part, je suis arrivé un petit peu trop tard sur les terrains chinois pour pouvoir y avoir accès. Donc pour information, entre 2018 et 2019, pour ma part, je pense que Florence Padovani a pu en rencontrer. Pour moi, c'était impossible parce que c'est trop sensible pour ces leaders paysans de rencontrer des chercheurs.
Florence Padovani Vous les avez rencontrés, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Oui, alors, juste deux, trois choses. Par exemple, je pense à un quasi-cadre donc, qui était responsable donc, des déplacements de population dans son village. On lui a dit, voilà, vous avez une centaine de familles à faire déménager, donc débrouillez-vous. Donc, il a fait du porte-à-porte. La plupart n'étaient pas du tout chauds pour déménager, surtout pour aller à Shanghai. Ça leur plaisait pas trop, c'était trop loin. Et donc, il a dû mettre son nom en tête de liste pour partir. Donc, ensuite, les autres villageois ont eu confiance et puis ont inscrit leur nom. Et finalement, ils sont partis. Quand je l'ai rencontré à Shanghai, il avait des gros problèmes dans son foyer. Sa femme n'arrêtait pas de le critiquer en disant qu'ils auraient jamais dû partir, qu'il aurait jamais dû mettre son nom. Et comme c'est un quasi-fonctionnaire, il ne peut pas retrouver d'emploi de fonctionnaire à Shanghai. Donc, il a finalement le même statut que les paysans et que les familles qui ont été relogées. À Yunyang, j'ai rencontré un chef d'un groupe paysan résistant, ne voulant pas partir. Donc, ils ont fait des sittings devant le commissariat de police. Il y a eu un kidnapping d'un dirigeant au niveau provincial. Quand il est venu, on l'a kidnappé, on l'a gardé pendant plusieurs heures. Donc il y a aussi les pétitions que ces groupes de paysans envoient donc à la hiérarchie, donc au niveau supérieur, en espérant obtenir une réponse. En général, on n'a pas de réponse. Voilà, donc il y a eu des modes d'action, mais du coup, le gouvernement a quand même réagi, il y a eu des arrestations, et il y a eu quand même de gros problèmes. Et les gens de Yunyang, par exemple, sont connus justement, ils ont été connus comme étant des personnes qui résistent. Donc les cadres de Shanghai ont mis des conditions pour accueillir ces gens-là, parce qu'ils ne voulaient pas de fauteurs de troubles.
Oui, ils pensaient que c'était des personnes qu'il fallait tenir à distance de la ville. Quel est le rôle dans tout ça, David Julien, des grandes compagnies publiques hydroélectriques qui mènent ces grands projets de barrages? Est-ce que l'État exige d'elles d'aller au-delà de la simple construction des ouvrages d'art? Est-ce qu'elles sont impliquées, elles aussi, dans une forme de, j'allais dire, de consultation? Je pense qu'il n'y en a déjà pas beaucoup en France, donc des consultations sur les grands ouvrages. Donc en Chine, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Mais en tout cas, quel est leur rôle à elles?
Alors, je pense qu'il faut préciser quelque chose en propos préliminaire. Préciser qu'il y a une forte différence au fur et à mesure du temps dans la manière de gérer les déplacements et la construction des grands barrages. Mmh. Entre les années 80, où on a largement la volonté de juste avoir de l'électricité et construire le barrage, jusqu'à aujourd'hui, où il y a toute une politique qui entoure, toute une politique même territoriale, on pourrait dire en France, qui entoure la construction des barrages. Mmh. Donc les entreprises, le rôle des entreprises d'État chargé de la construction et de la gestion des barrages hydroélectriques est très différent si l'on parle des années 80-90, 2000-2010 et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça c'est pas le cas du barrage des Trois Gorges, ça je laisserai Florence Padeau venir en parler si c'est judicieux, mais pour ce qui s'agit des barrages construits dans la décennie 2010, notamment vers la fin de la décennie 2010, les entreprises publiques, les entreprises d'État sont directement impliquées sur le territoire. C'est-à-dire que, en tout cas pour ceux que j'ai étudiés, les barrages que j'ai étudiés, il y avait une conjonction en fait entre la politique d'aménagement du barrage, mais aussi un certain nombre d'autres politiques, telles que la lutte contre la pauvreté, par exemple. Et donc, le barrage devient une aide à la modernisation générale, à la fois des infrastructures, des routes, des écoles, les équipements publics, mais aussi directement même du financement des maisons, des autoroutes. Et donc, pour ceux que j'ai étudiés, qui faisaient partie d'une campagne de sortie de pauvreté, les entreprises en fait étaient intégrées dans le processus de sortie de pauvreté, et elles avaient pour responsabilité aussi d'envoyer des équipes dans chaque petit village, où il y a des formats un petit peu de résidence, on pourrait dire, où une équipe du gouvernement et de l'entreprise d'État devait rester un certain temps au sein de chaque village pour comprendre les conditions locales et adapter ensuite au mieux la politique territoriale, on va dire, du barrage.
Donc on a parfois demandé, enfin on imagine que l'État chinois a demandé à ces entreprises de financer le déplacement de villages entiers, des politiques aussi de développement local, des projets éducatifs, des aménagements touristiques éventuellement.
Alors je ne sais pas si je pourrais, disons, généraliser mon propos à l'ensemble de la Chine. J'ai pas assez
Non, mais vraiment, vous inquiétez pas, je vous pose des questions sur le Yunnan, vous êtes le seul à très bien connaître, donc n'ayez aucune crainte, vous pouvez y aller, vous prenez beaucoup de précautions.
En tout cas, sur le cas que j'ai étudié, en fait, on est dans une situation où les autorités locales, donc je parle de la préfecture là, n'ont pas les moyens, n'ont pas d'autonomie financière. Ils sont, pour les activités quotidiennes, financés directement par l'État central, au niveau national, qui est assez inhabituel au niveau national. Et donc, les différents aménagements, il y en a beaucoup, hein, c'est la construction d'une autoroute, la construction de tous les nouveaux villages, parce qu'il y a eu un déplacement, alors il n'y a pas eu de barrage dans la situation à laquelle je pense, il n'y a pas eu de barrage construit au final, mais l'entreprise a quand même dû participer à l'aménagement du territoire, à son réaménagement, disons. Donc il y a financement de l'autoroute, il y a financement des écoles, il y a financement de tous les nouveaux villages pour à peu près 100 000 déplacés. ce qui est considérable pour un regard français. Et l'essentiel de l'effort financier est soutenu par cette entreprise-là.
Je souhaite que l'amour des jeunes mariés soit aussi fort que le barrage des Trois Gorges.
Je suis très excitée. Cette cérémonie de mariage est pleine de sens et différente des autres cérémonies. D'habitude, il n'y a que les amis et les parents. Ici, c'est comme si on se mariait devant le peuple tout entier.
C'est devant le barrage et ce grand fleuve qu'on vient faire notre promesse d'amour.
Alors, entre les pêcheurs qui expliquent qu'ils ne peuvent plus pêcher aujourd'hui dans le fleuve Yangtze, par exemple, ce fleuve sur lequel se trouve le barrage des Trois Gorges, et qui n'ont plus de moyens de subsistance, et ceux qui, au contraire, profitent du barrage pour aller déclarer leur amour et faire éclater leur joie, forcément, le barrage n'est pas vécu de la même façon par tous. Florence Padovani, en Chine, est-ce que ces grandes politiques dites de sortie de la pauvreté, qui ont accompagné ces aménagements et que la Chine a mis en avant, ont abouti à quelque chose et à quoi? Et en mots aussi que je voudrais vous faire dire à tous les deux avant de conclure cette première partie sur une sorte de processus de sinisation dans les régions où ça justifie, où ça a un sens, où les minorités ethniques sont très, très fortes, qui est associé à ces déplacements.
Alors oui, effectivement, quand on est chinois, on a un regard sur le barrage des Trois Gorges très différent quand on habite à Shanghai et puis quand on habite à la campagne et quand on est affecté, c'est sûr. Je dirais que les urbains, les citadins, ceux qui habitent dans les nouvelles villes le long du fleuve sont en général assez contents. Ceux qui sont partis, même ceux qui sont partis à Shanghai, ils sont partis dans la partie agricole de Shanghai et donc ils ont des revenus qui sont souvent inférieurs à ceux qui sont restés. À ceux qui sont restés dans les Trois Gorges, donc ils sont pas très contents. Mais en général, ils disent on met tout notre espoir dans nos enfants ou nos petits-enfants. Donc ce sera mieux pour la génération future. C'est souvent ça la réponse que l'on a.
Ces politiques-là d'aménagement sont accompagnées, vous l'avez dit tous les deux, de politiques de développement local, de projets éducatifs aussi pour les salariés, des projets de formation, de reconversion plutôt dans le domaine des services, mais également quand cela concerne des minorités ethniques, qu'est-ce qui est prévu pour elles? Et là, je vous pose la question, David Julien. Alors, non pas que le Yunnan soit très représentatif de provinces telles que le Tibet ou le Xinjiang, où là, vraiment, les minorités ethniques sont très fortes. Là, on est plus dans le cadre d'une sorte de mosaïque de minorités, beaucoup plus éclatées. Néanmoins, qu'est-ce qui est prévu pour ces minorités quand elles sont concernées par des projets de barrage? Est-ce qu'on parle de processus de sinisation associé à ces projets?
Alors oui, le projet, donc une fois que le barrage est construit ou en construction, il y a des politiques culturelles qui y sont associées, et notamment pour le cas du Yunnan, comme vous le rappelez, c'est un peu différent pour le Tibet et pour le Xinjiang. Dans ce cas-là, le barrage en fait, est accompagné d'une politique aussi de développement touristique, souvent dans la province du Yunnan. Et donc, il y a aussi, c'est non seulement une politique culturelle locale, mais c'est aussi une projection des cultures locales, parce qu'il y a beaucoup de minorités ethniques qui coexistent dans chaque préfecture, etc. De projection de cette culture pour les potentiels touristes qui viennent visiter ces régions-là. Donc, par exemple, ça peut être, donc, ce que j'ai pu rencontrer certains touristes qui viennent dans les régions les plus reculées du Yunnan, donc celles que j'ai étudiées, à la recherche de quelque chose d'authentique, notamment des urbains, par exemple, qui travaillent dans le milieu de la culture, de l'édition, etc., et qui cherchent quelque chose de vrai. De l'autre côté, vous pouvez avoir donc certains habitants qui font partie d'une minorité ethnique, qui sont très fiers d'appartenir à une minorité ethnique, mais je pense que ce qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre, c'est que cette minorité ethnique à laquelle ils appartiennent est en fait largement souvent des constructions d'État qui viennent de la politique de minorité ethnique de l'État chinois, qui est elle-même inspirée du modèle soviétique d'il y a longtemps. Et donc, en fait, oui, je vais juste terminer ici, pardon. Il y a en fait une forme de standardisation, si vous voulez, de sélection de ce qui correspond culturellement à chaque minorité ethnique.
Et ne parlons pas des touristes chinois qui arrivent au Tibet également dans cette même quête d'authenticité, ou plutôt si, parlons-en dans le Focus avec Katia Buffetri, juste après ce groupe originaire de Pékin, New Pants. New Pants, groupe de Pékin, créé en 96. Un jour, je te tromperai. C'est une chanson de 2011, c'est bien aimable. Je cite, tes sentiments pour moi sont comme les appareils électroménagers. S'ils tombent en panne un jour, tu ne les répareras pas avec le soin qu'ils méritent. Exactement comme un vieux barrage dont on ne sait plus quoi faire. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur les grands travaux des projets de la démesure. Aujourd'hui, les grands barrages construits sur à peu près tout ce que la Chine compte de cours d'eau, ceux du Tibet ne font pas exception. Depuis son invasion militaire en 1950, la Chine y construit toutes les infrastructures qu'elle peut pour à la fois profiter de ses ressources, mais aussi le mieux contrôler. Les lignes de train font partie de l'arsenal.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
There was an announcement and they said this whole plateau, the elevation.
Il y a eu une annonce dans le train. Ils ont dit, ce plateau est à plus de 4000 mètres d'altitude. Tout est gelé, vous voyez. Il doit faire super froid dehors. Bonjour. Vous avez prévu de visiter le Tibet ?
Oui, bien sûr.
C'est votre première fois ?
Oui.
Et vous avez quel âge ?
70 ans.
Et vous n'avez pas eu le mal des montagnes dans ce train ?
Pas encore.
Quelques impressions de touristes chinois glanés dans le train qui relie la province de Qinghai au Tibet. La première étant voisine du second, mais le trajet est long et les montagnes sont hautes. Une autre ligne de train est en construction qui permettra de rejoindre le Tibet par l'est, officiellement destinée à désenclaver et à développer ce territoire. Ces deux lignes, véritables prouesses d'ingénierie par ailleurs, ont déjà contribué à modifier les modes de vie des Tibétains. C'est ce que vous avez constaté sur place, Katia Buffetri. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ethnologue et tibétologue rattaché à l'école pratique des hautes études. Dans quel train vous êtes monté, vous, pour votre part ?
Moi, je suis allée l'année dernière, simplement, dans le train entre Lhasa et Shigatse, c'est-à-dire la continuation, en fait, du train qui fait Pékin, Xining, Lhasa, Shigatse, puisque l'idée, c'était d'aller jusqu'au Népal et d'emporter le train au Népal.
Donc, une forme de prolongation de cette ligne ouverte en 2006, qui est en soi une prouesse technologique, qui court sur plus de 1140 km, qui franchit plus de 2600 ponts, 11 tunnels, etc. Quand vous avez traversé les hauts plateaux du Tibet, après avoir interrompu vos séjours sur place pendant quelques temps, est-ce que vous avez trouvé que ces paysages avaient déjà changé ?
Ah oui, tout a changé à mesure que... Bon, alors déjà, je voudrais revenir sur ce que disait David avant, c'est très important, c'est-à-dire que le Tibet, ce n'est pas seulement la région autonome du Tibet. Lorsque vous allez dans les provinces du Qinghai, qui était l'Amdo, du Sichuan, du Gansu et du Yunnan, vous avez encore la population tibétaine, en grande majorité, appartient à ces régions tibétophones. Voilà, c'est très important. Et donc, le train, effectivement, a construit en 2006, ça a été une prouesse technologique. Et les Chinois qui vous racontent leurs impressions bénéficient aussi d'oxygène et de tout ce qu'il faut pour ne pas tomber raide évanoui quand vous n'êtes pas habitué à l'altitude.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'altitude, le train ne cesse de monter, descendre. Donc vous avez une sorte de petite bouteille d'oxygène comme ça qui vous habitue.
Enfin, moi, oui, si vous le désirez. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Mais sinon, ce dont il faut se rendre compte, pas spécialement dans le train de Xining à Lhasa, parce que à ce moment-là, il traverse des hauts plateaux. Mais par exemple, simplement, si vous allez de Lhasa à Shigatse, votre vision du paysage est assez limitée, puisque vous passez de tunnel en tunnel. Et c'est le cas dans de nombreux voyages en train. Et la ligne qui va à Ningxi, donc, qui est très importante, puisqu'elle va là où est construit le grand barrage sur le Yarlung-Tsangpo. Et c'est souvent, ça traverse de nombreux tunnels. Donc, si vous y allez pour voir le paysage, il faut mieux prendre la route.
Et depuis les vitres du train, les fenêtres du train, pour faire un petit coucou à notre sujet de la première partie, vous voyez aussi tous les fils électriques qui relient les barrages vers aux régions qui bénéficient de cette électricité-là.
Oui, alors parmi les changements, par exemple, entre Katmandou et Lhasa, que j'ai fait de nombreuses fois également en 2024 et 2025, vous avez effectivement des forêts de poteaux électriques qui, bon, je ne suis pas spécialiste, donc je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble qu'avec les barrages, ça devrait vouloir dire que l'électricité est emportée, bien entendu, vers la Chine, je suppose, parce que la population à cet endroit-là n'a pas besoin de cette forêt de poteaux électriques. Et donc, il y a tous ces nombreux barrages, il y a aussi, enfin, il y a des changements à tous les niveaux, mais il y a les changements, puisque nous parlions du tourisme, il y a les changements auxquels entraîne ce tourisme de masse qui, pour moi, est une véritable arme de destruction massive. C'est-à-dire que j'ai cherché les chiffres et on dit qu'il y a eu 31 millions de touristes dans la première moitié de 2025.
Ah oui, 31 millions en un semestre.
31 millions. La région autonome, ce sont les chiffres officiels. Il faudrait savoir comment ils les calculent. S'ils calculent aller-retour ou si c'est la moitié. Mais même si c'était que la moitié. La population tibétaine, c'est 2 800 000. Donc même si vous n'avez que 15 millions de touristes dans une première moitié d'année, plus les travailleurs, vous imaginez que le Tibet, il est complètement noyé. Les Tibétains sont noyés dans une population Han.
Vous-même, Katia, oui, la Han, donc l'ethnie majoritaire en Chine. Vous-même, Katia Buffetry, vous étiez installée donc dans ce train qui est rapide, avec des repas à bord, l'oxygène, on l'a dit, les trois catégories de couchettes, donc qui était plein de touristes Han, de touristes chinois.
Il y a aussi des Tibétains.
Il y en a quand même qui montent dedans. Oui. Mais les touristes, eux, ils descendent souvent au terminus, Lhasa. Est-ce que la capitale a été réaménagée pour eux en quelque sorte?
Alors la capitale, moi, j'ai fait une absence de Lhasa entre 2017 et 2024, et quand je suis rentrée en 2024, le choc, ça a été la présence chinoise. La ville est une ville chinoise maintenant. Les rues qui étaient des petites rues sont devenues des grandes avenues. Il faut faire passer les tanks, l'armée. Donc maintenant, les Chinois aiment les grandes avenues larges où vous pouvez faire passer des tanks. Et donc toute la ville a été restructurée pour ça. Et ensuite, vous avez tous les petits détails faits pour les touristes. Alors déjà, les touristes chinois ont une tradition actuelle, mais je crois qu'elle date d'avant, vous me le confirmerez peut-être, c'est de vouloir se déguiser, cette appropriation culturelle qui consiste à se déguiser au Tibet en tibétain, avec une perspective très, je dirais, raciste, c'est-à-dire qu'on imagine que les Tibétains, vous savez, ce sont les petits frères à qui on a apporté la civilisation, et donc on se déguise, on fait comme des sous les yeux des petits signes comme s'ils se scarifiaient, ce que je n'ai jamais vu, mais enfin bon. Et vous avez partout, tout est organisé, c'est-à-dire vous avez devant le Potala, il y a un lac.
L'ancien palais du Dalai Lama, voilà. Je vous en prie.
Devant le Potala, donc il y a une immense place faite pour faire passer les tanks et les défilés militaires. Et là, vous avez des petits miroirs, j'ai découvert ça, des petits miroirs à la place du lac où se reflétait le Potala. Et lorsque vous vous mettez dans une certaine position, vous pouvez vous prendre en photo avec le Potala derrière et le Potala se reflétant. Donc, vous avez cette place qui est couverte de Chinois déguisés en Tibétains, les fesses en l'air, excusez-moi, pour prendre la photo de la copine ou du copain qui est en train de poser pour avoir... voilà.
Bon, on en voit aussi l'un près du Palais du Louvre, par exemple. Il y a aussi, vous avez rapporté des photos, un yak, les bêtes, les yaks, posés là comme s'il s'agissait de camions de glace. Qu'est-ce qui fait là, ce yak?
Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut faire des photos. Là, les selfies, c'est la chose la plus importante pour les Chinois. Vous vous rappelez que certains sont morts à force de se prendre en selfie. Ils étaient tombés en France. Il y en avait un qui était tombé derrière une falaise, là. Eh bien, on continue à prendre des photos. Et les yaks, qui sont quand même pas des animaux très faciles, ou les mastifs, qui sont des énormes chiens qui sont pas du tout gentils, sont complètement shootés, mis dans des endroits comme le Yardotso, qui est un endroit absolument magnifique, un lac très haut, dominé par le Nechinkangsang, qui est une montagne extraordinaire. Et là, sur cette berge magnifique, on a créé des balançoires recouvertes de fourrure rose en forme de cœur où vous pouvez poser avec des selfies et des yaks sur lesquels vous pouvez monter qui sont complètement shootés comme s'ils ne bougent plus. Ou des petites chèvres aussi. C'est très triste.
Oui, pardon, ça me fait rire, mais c'est votre façon de le raconter. On sent que vous n'aimez pas du tout ce qui s'est passé.
La
Disneylandisation du Tibet. Est-ce que vous avez aussi repéré une forme de surveillance? Fut-elle occultée par toute cette joyeuse mise en scène
et
ses déguisements?
Elle n'est pas occultée, la surveillance, au moins, ça c'est clair.
J'ai cru comprendre que des caméras étaient cachées parfois dans
des moulins à prière. J'avais été très, entre guillemets, contente d'en voir une, enfin contente, très choquée, je devrais dire, d'en prendre une en 2017, mais maintenant c'est partout. C'est-à-dire que je trouve que c'est pervers. C'est-à-dire que vous avez le moulin à prière avec le mantra à Avalokiteshvara, divinité protectrice du Tibet, de la compassion. Et à l'intérieur, vous avez la caméra qui va permettre de surveiller les gens. Il y a des caméras qui peuvent lire sur vos lèvres. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras tous les 5 mètres.
Katia Buffetri, comme vous êtes spécialiste, enfin vous travaillez particulièrement sur les pèlerinages bouddhistes autour des montagnes sacrées du Tibet, donc je ne peux pas ne pas vous poser cette dernière question. Est-ce que les pèlerinages ont été eux aussi progressivement altérés par ce nouveau tourisme chinois de masse?
Alors les pèlerinages sont actuellement... Alors altérés, voilà, il y a deux choses. C'est ce que vous voyez et comment les Tibétains le vivent. Hein. Pour les Tibétains, même s'ils font le pèlerinage en voiture, ce qui est le cas maintenant, tous les lieux de pèlerinage autour des montagnes sacrées, je travaille surtout autour des montagnes sacrées, il y a des routes maintenant autour des montagnes sacrées. Et donc, la marche qui était terrorisée dans le pèlerinage, puisque c'était là où vous purifiez vos péchés, maintenant, beaucoup de gens vont faire le pèlerinage en voiture. Donc, ça change considérablement, puisque de nombreux... D'abord, la route, elle ne passe pas sur la route traditionnelle, dont de nombreux sites ont disparu. Il y a aussi la grande folie des géoparcs, la pollution avec des panneaux partout, la propagande que vous avez, même à 5000 mètres, hein, avec aussi des panneaux géologiques qui ont pour but de faire disparaître le côté religieux de l'endroit et le mettre en face à un discours géologique.
Et avec surtout ces pèlerins qui empruntent des routes depuis lesquelles ils voient toutes ces montagnes qu'on a parfois éventrées pour en extraire les minerais, ces montagnes qui sont souvent des lieux de culte pour les Tibétains et là qu'on a dépouillés. Vous vouliez juste ajouter un petit mot sur les barrages et ceux notamment qui se trouvent aux frontières, la question de la surveillance des barrages pour conclure cette...
Oui, je voulais juste rajouter sur le barrage de Ryarunsangpo, il se trouve à 50 km de la ligne Macmahon, ligne frontière qui est complètement contestée. Le sud est considéré, l'Arunachal Pradesh, comme appartenant au Tibet car le sixième Dalai Lama y est né. Et donc, avec tout l'apport de nouvelles administrations d'ingénieurs et d'autres populations Han, il y aura un contrôle des frontières et l'une des idées de ces barrages, c'est aussi la stabilité des frontières.
Merci Katia Buffetri, vous restez avec nous. Florence Padovani, juste un petit mot de conclusion sur ces barrages qui paraissent aussi par ailleurs un peu anachroniques quand les États-Unis, eux, par exemple, commencent à vider les leurs, alors avec plein d'autres griefs à formuler sur les États-Unis et leur rapport à la nature aujourd'hui. Mais en tout cas, est-ce qu'en Chine, la Chine va continuer de toute façon à créer ces barrages, tout en continuant à produire du charbon d'ailleurs.
Alors très rapidement, le modèle américain, ça reste un modèle pour la Chine, et le Tennessee Valley Authority, ça a été un modèle dont les Chinois sont inspirés eux-mêmes pour justement le Yangtze. Oui, les Américains actuellement font un retour de la rivière à la nature. Au moment où les Chinois multiplient les barrages, ça m'avait vraiment quelque chose qui m'avait vraiment choqué au niveau de ce timing. Et les Chinois sont maintenant considérés comme des spécialistes. Donc, dès ces infrastructures, ils en construisent au Laos, en Asie du Sud-Est, à peu près partout, c'est les Chinois qui construisent les barrages.
C'est les Chinois qui construisent les barrages et sans se poser tellement la question, mais personne ne se la pose vraiment, de l'avenir des barrages quand ils seront tout abîmés, dégradés, puisque les barrages ne sont pas éternels. C'est un Absolument. Sujet qui n'est pas abordé et auquel vous tenez. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Florence Padovani, vous allez faire paraître en janvier du barrage des Trois Gorges à Shanghai ou au Guangdong, géographie des déplacements contraints aux éditions de la Sorbonne. Katia Buffetri, L'âge d'or du Tibet, 17e et 18e siècle. Votre livre est toujours disponible aux éditions des Belles Lettres. Et merci également à David Julien, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et de Ningbo en Chine. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Gros plan ce matin, Catherine, sur le rôle que le Caire, l'Égypte, pourrait tenir auprès des Palestiniens.
L'Égypte a donné un grand élan à la cause palestinienne, titre le quotidien égyptien Al-Dustour, et le Caire forme des policiers palestiniens pour assurer dans un avenir proche la sécurité dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le président Abdel Fattah al-Sissi hier, en marge du sommet de la paix à Sharm el-Sheikh, rapporte le journal égyptien Al-Ahram. Le président Sissi a également appelé les pays européens à soutenir l'Égypte et la Jordanie dans leurs efforts pour former, entraîner ces policiers palestiniens. L'Égypte semble ainsi revenir au centre du jeu diplomatique, note The New Arab, après un certain recul régional ces dernières années en raison de problèmes économiques et sécuritaires intérieurs. L'Égypte, qui partage une frontière avec Israël et Gaza, doit jouer un rôle dans la force de stabilisation chargée de préserver l'ordre et la sécurité après le retrait des troupes israéliennes, rappelle The New Arab, même si l'on a peu de détails à ce jour sur sa composition précise. Rôle humanitaire également pour laisser entrer des camions d'aide dans l'enclave palestinienne. L'Égypte, pays d'accueil aussi de plus de 100 000 Gazaouis qui ont fui les bombardements israéliens depuis 2 ans et qui peinent aujourd'hui à trouver une place, à obtenir un statut dans la société et l'administration égyptienne. Dans un pays où la presse est plutôt inféodée au pouvoir, muselée, c'est dans les médias internationaux que se dessine donc le quotidien compliqué des Gazaouis exilés en Égypte. Parfois, sous couvert d'anonymat, ils acceptent de témoigner, indique le quotidien israélien Haaretz. Ils ont peur d'être perçus comme manquant de gratitude, par crainte de représailles aussi des autorités égyptiennes qui pourraient empêcher d'autres Gazaouis de passer la frontière sud de l'enclave. Pour s'échapper, Rouloud et Mohamed racontent à Haaretz avoir déboursé plus de 17 000 dollars pour eux deux et leurs 3 enfants, une somme payée à une société égyptienne qui avait réservé le voyage via le poste frontière de Rafah avec l'Égypte l'an dernier. Ils ont emménagé dans un petit appartement au sud du Caire et paie aujourd'hui un loyer de 9000 livres égyptiennes, l'équivalent de 200 dollars. C'est 3 fois plus élevé que ce que les Égyptiens paient pour un appartement similaire. Tout le monde veut tirer profit de cette guerre, à Gaza comme ailleurs, explique Rouloud, cette mère de famille gazaoui, dans les pages du quotidien Haaretz.
Et les Gazaouis y sont si nombreux qu'ils forment une communauté surnommée Little Gaza.
Dans le quartier de Nasser City au Caire, où s'est rendu le journal suisse Le Temps, de grands immeubles résidentiels gris ou rendus gris par la poussière kérote, disposés en échiquier où se croisent de larges avenues, vides de piétons en cet après-midi d'octobre, comme assommés par la chaleur qui étreint encore la capitale égyptienne, décrit le quotidien Le Temps. La nuit est tombée et Little Gaza commence à prendre vie. Au restaurant Ayal Rimal, les farchouras sortent de la cuisine les uns après les autres. C'est la déclinaison Gazaoui du shawarma syrien, précise le journal suisse Le Temps. On le voit notamment à son emballage à motif kéfier. Le propriétaire Osama Abou Alaoun, 29 ans, est arrivé de Gaza en mars 2024 avec son épouse et leurs jumeaux nés sous les bombes.
Hayr Rimal, c'est pas le nom de Gaza, mais on a mis le nom Ayal Rimal n'est pas le même nom que notre restaurant que nous avions à Gaza. Nous voulions un nom qui reflète notre identité. Et Ayal Rimal est le nom du quartier où nous vivions, explique le jeune Gazaoui, aujourd'hui exilé en Égypte devant la caméra de The National News. À notre ouverture, dit-il encore, nous avons constaté une forte affluence d'Égyptiens, Dieu merci. On sent qu'ils ne viennent pas seulement pour la nourriture, mais aussi parce que nous sommes de Gaza. Ils disent, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Les gens viennent de partout, même des Émirats Arabes Unis. Bachar Mohamed, un autre Gazaoui, trouve lui du réconfort dans ces commerces palestiniens florissants au Caire, raconte le quotidien saoudien Arab News. Mais la vie n'est pas rose à Little Gaza, ajoute le journal suisse Le Temps et la Deutsche Welle. Sans titre de séjour garanti, les Gazaouis exilés en Égypte sont constamment inquiets pour leur foyer et pour leur avenir. Dans un vide juridique, ils ne peuvent mener qu'une existence précaire, confirme le média israélo-palestinien Plus 972. Le corps au Caire, la tête à Gaza, résume de son côté le quotidien québécois Le Devoir. Les Gazaouis qui ont pu se réfugier en Égypte ont échappé aux bombes, mais la guerre les hante toujours. Leur avenir, plus qu'incertain, répète Haaretz. Alors que l'Égypte craint, elle, une relocalisation massive des Palestiniens de Gaza avec des membres du Hamas ou d'autres milices qui pourraient provoquer Israël depuis l'Égypte et compromettre la sécurité du Caire, explique Arab News. L'Égypte, sur un fil ténu entre ses propres intérêts et la solidarité avec les Gazaouis.
Merci beaucoup Catherine Dutu.